Et les matins débutent à 7h avec Anne-Laure Chouin et son journal. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Les élections ont commencé en Israël, des élections en forme de référendum pro ou anti-Likoud, le parti conservateur. Certains sujets n'ont pas du tout été abordés pendant la campagne, notamment la pauvreté qui touche un habitant sur cinq.
Et puis en France, la taxe GAFA a été votée hier soir par les députés. C'est une première en Europe. Elle devrait rapporter 400 millions d'euros, rien qu'en 2019.
Nous reviendrons également sur les enseignements du grand débat national restitué hier par Édouard Philippe. Pas beaucoup de surprises, nous dira Anne Fauquemberg. Après ce journal, Guillaume.
Eh bien, dans la question du jour, un nouveau terme, un peu difficile à comprendre, le préjudice d'anxiété. Que signifie ce préjudice d'anxiété? On posera la question à Jean-Paul Tessonnière, il est avocat.
Les bureaux de vote sont ouverts depuis une heure en Israël pour élire les 120 députés de la Knesset et le futur Premier ministre, dont le sortant Benjamin Netanyahou est pour l'instant donné favori. Son parti conservateur, le Likoud, est en compétition avec le parti centriste de l'ancien général très populaire Benny Gantz. La campagne a été marquée par une certaine violence verbale, notamment. Il faut dire, Étienne Monin, que l'enjeu après 10 ans de règne du Likoud est important.
L'enjeu est de savoir si le pays veut continuer, coûte que coûte, l'aventure avec Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre sortant est au pouvoir depuis 10 ans consécutifs. Il a fait de ses élections un référendum. C'est pour lui une question de survie politique. Il est menacé par la justice qui devrait bientôt lancer des poursuites, notamment pour corruption. Le désir de changement existe en Israël. Il s'est cristallisé autour de la personne de Benny Gantz. Il n'a pas d'expérience politique. C'est un ancien chef d'état-major qui a monté une liste avec un important parti centriste. Son programme manque de relief, mais il fait campagne sur le thème de l'union, de la fermeté et de la probité face à un Premier ministre transgressif et conquérant. La campagne a été particulièrement rugueuse. Elle a plus porté sur les personnes que sur les idées. Les médias traditionnels ont été court-circuités au profit des réseaux sociaux. Le camp centriste a été accusé de faiblesse. Les affaires du Premier ministre ont été régulièrement exploitées. Le résultat pourrait être serré.
On l'a entendu, cette campagne israélienne a surtout porté sur les personnes grandes absentes du débat électoral, la situation sociale de l'État d'Israël où 1 800 000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté dans un pays qui compte 9 millions d'habitants. Une pauvreté occultée donc par les candidats et pourtant bien réelle, comme a pu le constater la correspondante de France Culture dans le pays, Valérie Krova.
10h30, les portes du centre La Sova, le rassasié en hébreu, viennent d'ouvrir. Une cinquantaine de personnes se pressent pour manger leur seul repas complet de la journée. Il y a quelques immigrés et beaucoup de personnes en situation précaire, des femmes et des hommes de tous âges, comme cette dame de 73 ans.
Pourquoi je viens ici? Parce qu'à mon âge, on ne peut pas travailler en Israël selon les lois. Et mon revenu provient de la sécurité sociale, c'est pas beaucoup. C'est 3018 shekels.
Environ 750 euros. Le coût de la vie est très élevé en Israël, en particulier les logements. Caissière dans un supermarché, cette autre femme a dû quitter l'appartement qu'elle louait à Tel Aviv.
Tous les ans, les propriétaires me demandent plus d'argent. Et c'est un des problèmes, car le salaire n'augmente pas. Les loyers sont trop élevés, on ne peut pas payer.
Cet ancien chauffeur de taxi de 60 ans n'ira pas voter aujourd'hui.
Je ne vote pour aucun parti car je n'ai rien reçu de ce pays. Et je dors dans ma voiture, ça fait 6 mois. Ils ne me trouvent pas de travail. Je vis avec 2000 shekels par mois. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va à la mer.
En sortant du centre, nous croisons un monsieur venu apporter un sac d'habits. Avant, il était restaurateur et avait l'habitude de cuisiner pour les plus démunis.
Laissez-moi vous dire que nous sommes un pays riche qui vit avec des gens pauvres. C'est pourquoi j'espère que ça va changer en votant pour un gouvernement qui aura plus de compassion pour les pauvres et les gens malades.
Israël abandonne ses gens, nous confie un volontaire et aucun dirigeant ne vient ici pour voir combien la situation est grave.
L'envoyé spécial de France Culture en Israël, Valérie Krova. En Libye, l'affrontement redouté a bien eu lieu et il oppose en ce moment les troupes du maréchal Haftar et l'armée, fidèle au Premier ministre Fayez al-Sarraj. Les combats se déroulent notamment au sud de l'aéroport de Tripoli. Une situation qui met la France dans une position ambiguë. En effet, Paris avait noué des liens étroits avec le maréchal Haftar tout en soutenant officiellement le pouvoir en place. Une double politique que le Quai d'Orsay a aujourd'hui du mal à assumer. Bertrand Galichet.
Un embarras diplomatique perceptible qui conduit la France à démentir officieusement tout plan secret destiné à mettre au pouvoir en Libye le maréchal Haftar, car depuis le début de l'offensive menée par l'homme fort de la Cyrénaïque jeudi dernier, les regards se tournent vers Paris, soupçonnés de double jeu dans le dossier libyen. D'un côté, la reconnaissance par la France du gouvernement al-Sarraj à Tripoli comme seul pouvoir légitime et les efforts pour tenter de le réconcilier avec son adversaire Khalifa Haftar. Deux réunions ont été organisées, au château de la Selle-Saint-Cloud en juillet 2017, puis à l'Élysée en mai 2018, dans l'espoir de parvenir à des élections sans résultat jusqu'à présent. Et parallèlement, la France, sur le plan militaire, entretient des relations étroites avec le maréchal Haftar, qui a bénéficié de matériel français et du soutien d'agents de la DGSE. Pour justifier cette double politique, Paris invoque un nécessaire partenariat en matière de lutte contre l'immigration clandestine et contre le terrorisme et assure qu'aucune légitimité ne sera reconnue au maréchal Haftar s'il prenait le contrôle de Tripoli.
Eh bien, 7h06 sur France Culture, la suite du journal d'Anne-Laure Chouin dans les matins de France Culture, c'est une décision française qui ne devrait pas plaire aux États-Unis. Hier soir, les députés ont voté le principe d'une taxe sur les géants du numérique, une taxe GAFA, Anne-Laure.
Ce qui fait de la France un pays pionnier en la matière, et étant donné que ses alliés européens ne souhaitent pas se lancer dans un bras de fer avec la Silicon Valley. Le texte prévoit donc de taxer à 3% les activités numériques des grands groupes, ce qui pour 2019 devrait rapporter 400 millions d'euros. Le reportage de Steven Gouaillet.
Les députés n'étaient pas très nombreux sur les bancs de l'Assemblée hier après-midi pour écouter la présentation du projet de loi créant la fameuse taxe GAFA. Mais les présents ont pu entendre de la bouche du ministre de l'économie Bruno Le Maire un discours assez inhabituel.
Soit nous nous résignons à voir un capitalisme agressif qui utilise toutes les failles des systèmes fiscaux pour échapper à la juste imposition. C'est accepter demain d'être incapable de financer nos services publics, incapable de financer nos biens publics. Et c'est plus grave que cela. Si nous nous résignons à ces optimisations fiscales agressives et à ce capitalisme qui ne tient pas compte de la nécessité de défendre l'intérêt général, nous aurons demain des États plus faibles que des entreprises privées et un intérêt général plus faible que la somme des intérêts privés.
Un champ lexical qui ne devrait pas déplaire à la gauche de l'hémicycle. Pourtant, pour le député communiste Fabien Roussel, le ministre de l'économie ne va pas assez loin dans sa volonté de lutter contre cette optimisation fiscale agressive et déplore que la taxe GAFA ne concerne que les secteurs numériques.
Je pense à Nike, à McDo, à Starbucks, à des grandes entreprises comme ça, y compris des entreprises françaises comme Renault qui a une filiale aux Pays-Bas. Et ces grandes multinationales transfèrent leurs bénéfices dans des paradis fiscaux de l'Union européenne comme sont l'Irlande, les Pays-Bas, Malte, Luxembourg, des paradis fiscaux reconnus. Eh bien, il faut donc élargir l'assiette de cette taxe à toutes ces multinationales.
Mais ce qui a peu de chances d'arriver pour l'instant ce mardi, c'est sur la baisse programmée de l'impôt sur les sociétés que doivent se prononcer les députés. Des députés et des sénateurs qui devront également s'exprimer cet après-midi sur la restitution par Édouard Philippe du grand débat national. Un débat sans vote, en attendant des propositions plus précises du président de la République. Hier, l'opposition a commencé à critiquer les premiers éléments de restitution sur le thème notamment de beaucoup d'argent dépensé pour des retours sans surprise. Les précisions d'Anne Fockenberg.
Les présentations étaient pourtant soignées sous forme de bulles chiffrées, d'arbres et de pétales de fleurs. Pour la partie qualitative du Grand Débat, les réunions d'initiative locale, les cahiers de doléances, les lettres envoyées à la mission du Grand Débat ou encore les conférences par tirage au sort, plus de 700 000 idées ont été recensées. Mais l'un des prestataires du Grand Débat, Franck Escoubès de Bluenov, spécialiste de l'intelligence collective, reconnaissait hier des lacunes de méthode pour faire émerger des idées pépites, des propositions parfaitement neuves qui aurait pu sortir cette restitution d'un sentiment de déjà-vu.
La méthode va consister à repérer les éléments qui sont récurrents. Et si on a vraiment une proposition absolument innovante à partager, bah cette proposition-là, elle n'est pas récurrente par définition, elle est granulaire, elle est unitaire. Comment est-ce qu'on fait émerger ces éléments parfaitement granulaires ? Cette expression-là est peut-être encore passée sous le radar de la méthode.
Ce qui est toutefois rassurant par rapport aux critiques émises sur la plateforme officielle, encore hier matin, les garants ont parlé de questions biaisées, c'est que l'initiative parallèle du vraidébat.fr, la plateforme administrée par des gilets jaunes, eh bien, les résultats analysés par des universitaires ne diffèrent pas fondamentalement de ce qui s'est dit sur le granddébat.fr. On y parle aussi de justice justice fiscale, de meilleurs services publics, avec une différence de taille. L'inscription du RIC dans la Constitution arrive en tête des propositions.
Anne Fauquemberg, 17 associations au collectif citoyen d'aide aux migrants de Paris et de sa banlieue sont en grève aujourd'hui pour dénoncer une situation qu'ils estiment intenable dans les campements de la capitale. Seules les distributions alimentaires seront maintenues, mais pas de médicaments, ni de duvet, ni d'aide juridique. Ces associations estiment qu'elles ne peuvent plus agir toutes seules. Elles dénoncent l'inaction de l'État. Le reportage porte de la chapelle à Paris de Rémi Brancato.
Dans le camion de Médecins du Monde, tout près des tentes, sous le périphérique, Wazir, 22 ans, afghan, montre la plaie sur sa joue.
Aujourd'hui, elle est là pour faire un pansement.
Et elle date de quand, la blessure? C'est la bagarre de samedi? C'est un coup de couteau?
Des bagarres ont éclaté ces dernières nuits dans les campements, un signe, parmi d'autres, d'une dégradation de la situation pour Lise Lavillanière, le médecin.
On a de plus en plus de demandes psychiatriques, des gens qui viennent, qui s'effondrent. Il y en a certains avec des troubles mentaux qui sont dans la rue. Ils ne devraient pas être dans la rue. On sent que vraiment, ils n'en peuvent plus.
Trois fois par semaine, les migrants viennent trouver quelques soins. Cet endroit est trop sale, nous dit Mohamed, qui montre sa peau, des plaques purulentes sur le cou. Il y a des virus, j'ai besoin d'un endroit sain pour dormir. Et ici, ce n'est pas fait pour vivre. Les associations et les collectifs le répètent inlassablement. Et c'est le sens de cette grève aujourd'hui, cette pause symbolique pour Louis Barda, le coordinateur à Paris de Médecins du Monde.
C'est plus possible de continuer comme ça. Le collectif citoyen et les associations, clairement, ne devraient pas exister. En fait, si l'État faisait son travail, toute personne qui cherche à demander l'asile ou qui a besoin d'un hébergement d'urgence devrait l'avoir.
Les associations demandent désormais un rendez-vous avec le Premier ministre. Selon elles, plus de 1000 personnes dorment toujours dans des tentes au nord de Paris.
Ils sont les principaux marqueurs du changement climatique et ils fondent beaucoup plus rapidement que prévu. Chaque année, les glaciers perdent 335 milliards de tonnes de glace, d'après une étude scientifique internationale portée par des chercheurs français et publiée dans la revue Nature. Les glaciers les plus abîmés sont ceux de la cordillère des Andes ainsi que ceux du Kilimandjaro en Afrique. Le temps de ce mardi en France métropolitaine. Pour finir, des averses localement orageuses, excepté sur l'est du Rhône. Retour des éclaircies par la Manche et la Bretagne cet après-midi. Ailleurs, le ciel restera menaçant. Les températures comptaient entre 2 et 8 degrés ce matin, de 12 à 18 degrés cet après-midi.
Merci Anne-Laure Chouin. Il est 7h12 sur France Culture. Dans quelques instants, amiante, qu'est-ce que le préjudice d'anxiété ?